Gabriel Maurière, Le Revenant. L'homme, bardé de musette, allait à grande enjambée. Une canne tortueuse le devançait à chaque pas. Il était midi. La vie bourdonnante emplissait les haies. Le long du ruisseau, les peupliers dormaient, immobiles, le pied dans l'eau tiède. Derrière un pli de terrain, la maison haussait le dos comme une bête gîtée qui se chauffe au soleil. Une lumière vive de juin enveloppait toute la terre. À travers l'air surchauffé, le toit de tuiles tremblotait et la rumeur des oiseaux, des insectes, du travail universel, le ruissellement solaire, les lourdes odeurs, la sourde énergie qui coulait dans tous les êtres, semblaient se mêler en une profonde et lourde sourde vibration. Les forces obscures de la vie jaillissaient de toutes parts. Des fossés hypocrites où montaient des bulles, de toutes les rampes des graminées où se balançaient des insectes, des fleurs qui défaillaient sous le soleil, des horizons où gisait la forêt couchée. Pierre Mazure s'arrêta net à la limite d'un fossé, 100 mètres avant la maison. Devant lui, un espace vide d'obstacles, un dos de champ, tout hérissé de blé, dont les épis serrés striaient l'étendue et fatiguaient l'œil par leur papillotement. Au-delà, la ferme disparaissait à demi submergée par l'envahissement de la marée végétale. Et sous sa carapace moussue, quelque chose vivait. Il se remit à avancer, la nuque raidie, les reins étreints comme par une main de fer, la pensée serrée contre les tempes. Un moment, il sentit ses jambes s'amollir et sembla prêt à s'affaisser comme une loque dont le support a disparu. 3 heures de passé étaient là, dans ce tableau ramassé dans la minute présente. 3 ans inconnus, avec ce qu'ils peuvent renfermer de grêle, d'incendie, de mort. C'est comme si aujourd'hui on vous disait « Voici 3 ans de votre vie à venir, ouvrez cette porte, vous les verrez. Oh, il y a de quoi trembler. » Son angoisse ne dure pas car le blé lui tire l'œil. Il saisit un épi et se rend compte que le grain est déjà ferme sous les doigts. Point de niel, point d'herbe dans ce champ, la toison de la terre est luisante comme celle d'un animal bien nourri. Depuis sa descente à Vendeur, Mazure se sent un autre homme. La gare, les trains, les villes traversées, c'est encore la guerre, c'est l'inconnu, et c'est lointain déjà comme un mirage. Voici la vérité. Voici la terre du pays avec ses herbes connues, ses parfums et cette communion intime de l'homme et des choses que seul donne un long séjour dans les mêmes lieux et sans doute l'hérédité. Le peuplier d'Italie veille toujours sur la maison. Là-bas, une vache est couchée. On ne peut voir si c'est la rouge. La vie est endormie et lente. Il y rentre, il s'y baigne, il s'y résorbe. Et tout en continuant son chemin, il arrive au tournant de la barrière dont les piliers s'enfoncent dans l'herbe haute. Voici la maison au pan de bois garni de briques, l'écurie attenante, le vieux chaudron où boivent les poules, le fumier qui trempe dans le purin avec sa couronne mouvante de volaille. Comment, le logis est fermé? Ah oui, c'est dimanche. Mais voici sur une corde des vêtements de femme, puis du linge d'enfant qui sèche. Il pousse un soupir de soulagement. Cette vue le rassure. Elles ne sont pas là, mais ils y sont tout de même. Il passe sa manche sur sa moustache qui retombe, signe de satisfaction. À gauche, l'écurie baille. Mazure entre. Trois vaches y ruminent comme autrefois, mais l'une d'elles lui est inconnue. Il s'avance, tâte le pis de la bête, il se détourne et meugle en bavant du foin de chaque côté de sa bouche. Allô, c'est pas mal tenu. Il fait le tour de l'enclos, sans hâte maintenant, le sourcil froncé sous un vieux calot. Son nez long, d'où semble sortir la touffe de poils de la moustache, se tourne et flaire à droite et à gauche. Masure et chenille un arbre fruitier, il regarde les citrouilles qui s'étalent, obèses et sans gêne, dans le potager. Il constate qu'il y aura des prunes et que les abeilles travaillent. Au plein soleil, des pigeons dorment, pareils à une végétation de lichen moussu sur le toit des tuiles. C'est l'heure du dîner des poules. Étonnées et de la porte fermée, elles viennent en troupe comme pour réclamer, caquettes, se piquent de coups de bec et tournent la tête de côté avec une œillade vers le nouveau venu. « Attendez !» dit Masure. Là, dans l'écurie, se trouve le coffre à avoine. Il remplit d'une mesure. Les poules l'ont compris, elles volaient sous ses pas. À large geste, il répand le grain, et le troupeau, mouvant et multicolore, pique, pique avec un bruit de machine à coudre. Alors, il s'assied sur un vieux tronc sous la treille, tire sa pipe et fume, l'âme pleine d'un bonheur qui la vide de toute pensée. Car enfin le bonheur, c'est ça, de ne songer à rien en sachant que tout va bien, que la récolte pousse et que la terre autour de soi est large, féconde, éternelle. Mais voici dans le petit chemin des prés une voiture oscillante au gré des ornières, frôlant les gaulis à droite et à gauche comme un homme qui a bu. C'est bien le cheval bai, il trotte sec comme autrefois. Deux femmes droites sur la planche qui, rembourrée d'une botte de paille, sert de siège. L'une est grêle, l'autre plus forte. Elles sautent de la voiture. Masure a cessé de fumer sa pipe. Elles ne l'ont pas vu. Il est d'ailleurs gris et immobile. Dans sa poitrine, quelque chose remue un peu, sans qu'il se rende bien compte de son émotion. C'est sa femme et sa fille, ces deux êtres. Cette paysanne solide et hardie, cette gamine de 12 ans aux cheveux lisses et au corset plat, pareil à un roseau grêle et jaune. Elles vont et elles viennent. Il est là, mais il n'existe pas encore pour elle. Il jouit du spectacle de leur vie de tous les jours qu'il a devant les yeux. Oh, la petite a bien forci depuis qu'il ne l'a pas vue. Elle dételle le cheval. Il n'a pas remué, il a le temps. Pendant 3 ans, il a tout ignoré de leur existence. Qui apprendrait-il de nouveau maintenant qu'il ne puisse se remettre à plus tard? Elles sont là, elles ne sont pas malades. Il en sait assez pour l'instant. Mais voici la bête remisée. La voiture, à cul, lève ses brancards verts vers le ciel. Elles reviennent vers la maison et tapant leur tablier. Il s'est dressé. « Maman, un soldat !» La femme a levé la tête, tandis qu'il avance, ses musettes brinque-ballant autour de lui. Une idée de paysan facétieux lui traverse la tête. « Eh, la patronne, y aurait-il du travail chez vous ?» La femme s'arrêta, la main à la hauteur des yeux, et toute pâle, elle regarda l'homme, sans mot dire, en se reculant d'un pas, tandis que la petite, droite comme une latte, ouvrait tout grand ses yeux. « Seigneur Dieu !» Et elle ajouta en le fixant, « C'est-y toi, Pierre ?»«
Ça y ressemble, paraîtrait. Oh, on y met le temps à reconnaître les gens.
Veuguenarda-t-il en s'avançant vers sa femme. C'est Dieu possible, Marie, c'est ton père. Le soldat s'était avancé, un peu gêné, comme s'il y avait entre eux une barrière d'un instant. Ce que met entre deux êtres une longue absence, quelque chose qui arrête le geste, le temps qu'il faut à l'âme pour s'accommoder à une situation tellement inattendue qu'aucune réaction du sentiment ou de la pensée ne se produit sur le champ. Et le petit groupe reste une seconde, cristallisé par une vague épouvante, devant ce retour extraordinaire et quasi surnaturel. Alors on n'embrasse pas son âme? Elle fut dans ses bras et trois gros baisers à la mode du pays retentirent. Et la drôline? Marie, embrasse ton père. La fillette s'avançait, mais il la retint du bout de son bras pour l'examiner comme un objet. T'as forci? Oh, se porte bien, affirma-t-il, en reportant son regard sur sa femme. Pour ça, oui. Alors il l'enleva et l'embrassa à son tour. C'est pas étonnant, après 3 ans qu'elle ne te reconnaissait pas. L'enfant, la figure sans expression, ses mains pendantes au bout de ses bras longs, restait immobile. Mais si on entrait, vrai, c'est pas pour dire, mais on dirait pas que je suis le patron. Faut pas me prendre pour un cheminot, bien que je sois pas reluisant. La clé grinça, la porte s'ouvrit sur une vaste pièce carrelée où dormait, dans un coin, un lit haut comme une meule de blé, couvert d'un édredon rouge, ce qui retint d'abord l'attention de Merzur. Oh, ouais, on pourra se pagnoter ici. D'un coup d'œil, il serait à coutume. Non, rien ne changeait. Il rentre. Jamais si longtemps qu'il est parti, il me semble qu'il rentre de charrue. À part ça, y a rien à manger ici. Le cotillon de la femme ne fait qu'un tour, elle se hâte en poussant sans discontinuer de petits cris de surprise. « mon Dieu, quelle histoire !» Elle passe les assiettes. « Des œufs, j'ai des œufs, en voilà une affaire. Marie, va remplir la cruche. » Il se mit à manger, lentement, plein de déférence pour la nourriture, jouissant des assiettes, des verres clairs et de ces bonnes choses qui venaient de sa terre. Il hume le vin. « C'est encore du 1902 ?»« Oui, il n'en reste plus hier. Seigneur, quelle surprise! Quelle surprise !» Et elle restait debout à regarder manger l'homme, son homme, Mazur. Comme il finissait, sans avoir quasi parlé, bien que sa femme le questionnât sans cesse, une voiture légère entra dans la cour au trot. Un homme y ballottait, un homme d'une cinquantaine d'années, gros et rouge, la moustache retroussée, l'air réjoui du campagnard riche à qui ses écus donnent le verbe haut et familier. « Voilà Monsieur Durand !» dit la petite en se levant et en claquant des mains pour chasser les poules qui entraient dans la cuisine. L'homme avait sauté de la voiture et déjà s'apprêtait à dételer le cheval. La femme était devenue toute pâle et le verre qu'elle portait trembla dans sa main. Elle fit un signe à la petite qui comprit sans doute et fila vers l'homme. Mazur semblait n'avoir rien vu et continuait à manger avec application. Tout à coup, dans l'embrasure, la large carrure du visiteur apparut. « Ah, oh, sacré coquin, même que t'as eu des messes, allons, que je te vois !» Et il tournait comme un objet l'homme maigre vers la lumière. « Toi, tu ne veux pas tout à fait la mine d'un déterré, bien que tu sois pas gras. T'es pas beau, c'est vrai. » Faudrait que tu te fasses raser si tu veux embrasser ta femme. » Et il continuait ainsi, goguenardant et riant. Mazure se faisait petit, se rétrécissait sur sa chaise. Non, il n'était pas mort, mais il se sentait tout de même un peu étranger. Il s'asseyait au bord de la chaise comme chez le monde. Il avait toujours craint sa femme, qui était dure au travail, pour elle comme pour les autres. Aujourd'hui, il était l'autre, le cheminot, pas encore bien chez lui, encore un peu chez elle. Le gros voisin semblait au contraire le vrai maître du logis. Il se coupa du pain, il versait à boire. Docile, Pierre tendait son verre. « Ben enfin, comment que te v'là ici ?» Pierre ne songea pas qu'il aurait pu poser la même question à son voisin, et il répondit « De bêtises, quoi. On a été fait prisonniers à Maubeuge, il y avait beaucoup de territoriaux. On nous a emmenés comme des moutons dans des trains. Malheur, ce qu'on a roulé, des jours, des nuits entières. Là où qu'on était, on se demandait. Quand il faisait jour, on voyait des pays et des pays que je me rappelle plus le nom. C'est peut-être un des mille lieues d'ici. Je ne croyais jamais revenir. Ça me fait drôle de me retrouver là, comme si j'étais pas parti. Mais pourquoi que t'as pas donné de tes nouvelles? Le fils Amédée est prisonnier, il a écrit. Ah, il est prisonnier, Foucard. Il est tué. Alors pourquoi que t'as rien fait savoir? Mais j'ai donné deux lettres à un homme de la marine qui était prisonnier aussi, vu que moi je pouvais pas. Mais où que t'étais? Mais je suis belle. J'ai été à Langesalz pour commencer, puis il y a eu des blagues de fête. J'ai voulu me sauver, on nous a rattrapés. Et puis il y a des imbéciles qui ont tué un Feldwebel dans le coin où j'étais. J'y étais pour rien, bien sûr, mais je dis pas que c'était un grand malheur, il nous faisait crever de faim. Mais un homme, c'est un homme. Il n'était pas là pour son plaisir, c'est comme nous. Alors, on nous a enfermés. Oh, on en a vu. Et de la betterave à manger, malheur. Et par moments, son petit museau s'ouvrait au milieu des poils et un morceau d'omelette disparaissait, puis il mastiquait en hochant la tête. Bon Dieu, le pinard, oh, ce que j'y ai pensé des fois. Non, merci, assez, dit-il à l'homme qui le lui versait. Sa langue se déliait. Alors un jour que j'avais chu, je leur ai fait croire que j'avais quelque chose de cassé dans les reins. J'ai plus pu me redresser. J'ai resté des mois et des années plié en deux. C'est là qu'ils m'en ont fait voir. Ils m'ont étendu de force sur des planches et les hommes me pesaient dessus. J'hurlais comme si on m'avait tué. Oh, ils m'ont déchiqueté les membres avec des machines à l'électricité. Pour sûr que j'ai gueulé, ça m'arrachait les os. Tant pis, je me disais, bon Dieu, on les aura. Je les ai eus tout de même. À la fin, il faut que je les ai dégoûtés, ils m'ont renvoyé avec les manchots. J'ai resté cassé en deux jusqu'à la Suisse et même plus loin. Je n'avais pas confiance dans les copains, on ne sait jamais. Des copains, c'est pas toujours sûr. Ils ont cru, eux aussi, que j'avais les chines cassées. Personne n'a douté que Mazure, il aurait bien pu être droit, même que maintenant, il faut que j'y pense pour me redresser. Sacré Mazure, sacré coquin! Émoustillé, l'homme s'était levé, puis il marchait péniblement, un bâton à la main, courbé en deux, le corps déjeté en gémissant. Misère, aïe, aïe, Teufel, Schafkopf, aïe, aïe. Tandis qu'il tortillait son museau du côté droit, la bouche contractée et paraissait souffrir comme un damné. Puis il se redressait tout à coup, il jeta son bâton, et ce fut si soudain et si drôle que la fillette s'esclaffa et que le rire de Durand faisait trembler les vitres. « Oh, sacré masure, mais cré coquin, qui aurait jamais cru ça de lui ?» Tout le monde était en joie. « Y a-t-il des belles emblaves par là ?» Masure avança les lèvres avec dégoût. « Par des places, oui, il ne reste rien. Des maraîchers ou des griottes. Ça vaut pas ici, pour sûr. Les pommes de terre sont belles cette année. Comment que t'as pu t'en tirer ?» reprit-il un instant après, en s'adressant à sa femme, qui maintenant semblait plus à son aise et qui buvait aussi. « Oh, Monsieur Durand m'a bien aidé. Sans lui, j'aurais jamais pu y arriver. »
« On a fait ce qu'on a pu, » répondit le voisin en se balançant sur sa chaise. Brusquement attendri, Masure lui tendit la main. « Ça, c'est bien, voisin. »
Puis tout d'un coup, il se leva avec un fourmillement de joie que réveillait en lui la chaleur du vin. « Si on faisait le tour de la maison, » ils s'en allèrent, les esprits un peu échauffés. Masure en tête ouvrait les portes, tâtait les bêtes, grisées par le retour, par l'odeur de fumier, par la bonne nourriture absorbée d'un coup. Ses paroles, qui se pressaient, s'étranglaient dans sa gorge et il bégayait. « Oh, ça, c'est bon, ça, c'est bien !» Tandis que sa femme, avec Durand, venait par derrière, comme de futurs à qui on montre la richesse de la maison. Durand, malgré son assurance, semblait soucieux et un peu gêné. Il causait à voix basse avec la femme qui, l'air tout sérieux, répondait sans le regarder. « Faut plus penser à cette heure. » Enfin, il se décida à s'en aller et Masure lui serra les mains tout attendri.
« Ça fait rien, valait mieux que tu reviennes. Il était le moment que tu reviennes, » dit Durand en le quittant et en lui tapant sur l'épaule, comme on fait à une bonne bête familière, en riant d'un gros rire.
La femme haussa les épaules en regardant le voisin d'un air de reproche. Masure revint dans la maison, mais il ne tenait plus en place. « Oh, faudrait que j'aille dire bonjour aux amis, on peut pas moins. En soldat, parce que demain, c'est plus ça. » Il fit tournoyer son bâton couleuvre et, chassant du chemin les pierres qui vrombissaient, il alla chez l'un et chez l'autre, jouissant de l'anonymat que lui donnait sa défroque miteuse et l'effacement du souvenir. Il s'amusait à chaque visite de la stupéfaction des gens. Au moulin des Bas-Fosses, le meunier appela sa femme et on but le vin blanc. « Ça fait rien, lui dit-elle. Vaut mieux que vous soyez rentré.
Des fois que t'aurais retrouvé ta femme remariée, appuya le meunier. Dame, depuis le temps, moi, la mienne, elle aurait peut-être pas attendu si longtemps. »
Comme le vin blanc lui faisait gigoter la cervelle, Masure se mit à rire car cette idée lui semblait plaisante entre toutes.
C'est ça qui aurait été une drôle d'affaire. Heureusement, il ne s'est rien pressé. Oh, des fois que ton voisin Durand aurait pris ta succession, vois-tu ça? Il en ferait une tête à 7 heures.
Il riait de la déconvenue qu'auraient éprouvé les nouveaux époux, puisque ça n'était pas, on pouvait bien plaisanter.
Tout de même, le mariage n'aurait point été valable, mais ça fait tout de même drôle de penser à ces affaires-là. C'est comme si on serait mort et qu'on revienne. Oh, sûrement, tout le monde te croyait bien pourri dans quelque coin. Une joie de ressusciter était en lui, avec une sorte de gros contentement d'avoir attrapé les gens en leur faisant une bonne farce. Il semblait d'ailleurs, quand se fut donné le mot pour lui parler de Durand, Durand par-ci, Durand par-là. Paraît qu'il a rendu bien des services à la patronne. Oh, pour ça, oui! Et on souriait. Le lendemain, comme on arrivait au moment des gros travaux, il était debout dès l'aube, ayant revêtu sa culotte rapiécée et coiffé sa casquette. Et le revoici, grattant le sol comme autrefois, ces 3 années de malheur abolies. À peine s'est-il étonné quand sa femme l'envoyait au travail dans le champ des Rougevaux. Tu feras ça et ça. Oui, sans doute il est bien le maître, mais l'Amélie a toujours été une rude femme et elle a pris l'habitude de commander depuis 3 ans. Comme lui, celle d'obéir à tout le monde. Il ne s'en étonne guère et il pioche et bute ses pommes de terre. Il n'y a tout de même pas beaucoup de pinards, grogne-t-il en remuant sa langue pâteuse. Mais sa femme le rejoint, une bouteille dans son panier. Alors tout va bien. Et les voilà qui tous deux travaillent, insectes laborieux, dans la plaine immense, sous l'ardent soleil. Mais tandis qu'ils piochent et qu'ils cassent les mottes, une idée grignote sa cervelle. Des incidents la chassent. La maladie qui se met dans certains pieds de pommes de terre, un lièvre qui s'enfuit. Mais elle revient. Mais pourquoi donc tout le monde lui a-t-il parlé de Durand? Durand! On riait. Il demande à la petite. Alors, Durand, il vous a aidé? Il venait souvent? Des fois, il a labouré la grande pièce. Tous les jours qu'il venait? Des fois. La figure de l'enfant se ferme. À la sieste, il s'enhardit. La gamine est repartie à la maison. Alors, Durand, tu l'as payé? Ça a dû te coûter bon. Non, je ne dois rien à personne, répond-elle en levant la tête. Ça, c'est bien. Puis il se raidit. Alors, c'est vrai que tu l'aurais épousé? Elle s'attendait sans doute à la question, car elle ne bougea pas. Seulement, ses paupières battirent un peu plus vite. Prête à la défense, elle repartit brusquement. Mais des bêtises! On t'a déjà raconté ça? Oh, tu sais, tout le monde me croyait mort depuis 3 ans, et une femme toute seule dans la culture. Il cherchait d'avoir excusé sa hardiesse. Bien sûr, si j'avais voulu, j'aurais pu plus mal tomber. Il a du bien, reprit-elle. Moi, j'êtes pour sûr. Sous leurs yeux s'étendaient les herbages riverains et les champs de Durand, avec une jolie maison blanche, la sienne, au milieu des têtes rondes des noyers. Oui, pour sûr, ça aurait arrondi notre ferme. Il regarda. Bon Dieu, tout de même, cette belle prairie grasse, cette terre noire où la roue faisait des coupures sombres comme dans une pâte, une bonne herbe des peupliers le long du ruisseau, des plaques jaunes de champs de blé, tout l'autre côté de la vallée, quoi. Réunis à la sienne, quelle riche propriété ça aurait fait! Il en venait à oublier qu'une condition de cette belle affaire, c'était sa propre mort. Mais il secoua le rêve. Oh, ça aurait été le filon, mais je suis encore là. Ça vaut tout de même mieux. Il ne dit rien de plus et se remit à biner à grands coups réguliers comme une machine. Ça ne fait rien, l'Amélie. Elle avait de la tête. Au fond. Ça lui fait peut-être comme un regret à cette femme, pensa-t-il,
Quand le soir tomba, ils revinrent tous deux. Ah, faut que je repasse du côté des Vaudes. Il y a la terre à Jean Bédier qui est à vendre.
La terre à Jean Bédier?
Oui, j'ai su ça hier. Dans les 10 000, on l'aurait.
Elle avait ouvert tout grand les yeux, car elle est ambitieuse du sol, comme tous les paysans.
J'ai 300 pistoles de côté, dit-elle. Dame, depuis 3 ans, ça n'a pas été sans mal.
T'as 300 pistoles? T'as 300 pistoles?
Il la dévisageait et la voix changeait. Elle le regarda.
Eh bien, moi, reprit-il, j'en ai 120 qu'on m'a versé, de la solde que j'ai pas touchée pendant que j'étais prisonnier. Rapport à la haute paye et pile pécule. Le pécule, c'est de l'argent, alors tu vois.
Il parlait vite, les mots s'accrochaient dans son gosier. Jamais il n'en avait dit tant d'un coup.
Ça fait 4 000, il en manque 6. 6, c'est les peupliers. Le bois a augmenté du double, au moins. Oh, je gâche que les 80 peuples de la rivière valent ça, pour le moins.
Richard le meunier me le disait hier. Qu'est-ce que tu dirais de cette affaire-là, si tu repassais par les Vaudes?
Ils firent un crochet. La pièce des Vaudes étalait ses 5 hectares en bordure de leur ferme. Mazure prit un peu de terre et la fit couler comme du blé entre ses doigts.
C'est d'un bon grain. Ça, pour une riche affaire, c'en serait une. On laisse la récolte à l'acquéreur, paraît-il.
Ils rentrèrent, la soupe préparée par enfant fumait sur la table, et tandis qu'ils mangeaient à pleine cuillerée, la femme se déridait. Ça, vraiment, c'était un beau retour. Elle se sentit toute heureuse et regarda son homme les yeux animés.
On ira chez le notaire demain. Faut pas que Durand nous souffle ça.